Les voix de la radio. Ils font la radio chaque semaine à mes côtés, pour certains depuis les débuts en 2016, pour d'autres plus récemment. Mais qui sont-elles et qui sont-ils? Qui se cache derrière les émissions et les chroniques? Quels sont leurs parcours et leurs passions? Sans eux, Art District Radio n'existerait pas sous cette forme multiculturelle qui mêle les arts et la musique. J'ai imaginé cette émission pour leur donner la parole et les remercier de leur engagement. Et pour ce deuxième opus, j'ai tendu le micro à celui qui réalise l'émission Bulle d'Histoire. Rencontre avec Stéphane Dubreuil, chez lui à l'heure d'un apéro presque déconfiné et vacciné. Et pour mémoire, extrait du jingle de l'émission. Bulle d'Histoire. Hein ? Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour Stéphane.
Bonjour Julie.
Ravie d'être dans ton salon aujourd'hui pour réaliser cette interview. Un salon bien rempli, hein. Il y a des bouquins partout, il y a des DVD, des CD, enfin il y a un joyeux, joli bordel
encore,
en fait.
On n'est pas dans mon bureau parce que dans mon bureau c'est encore plus non académique, il y a des livres vraiment partout par terre. Mais là, effectivement, il y a des DVD, je pense qu'on doit en avoir 1200, un truc comme ça, quoi, à peu près. Et puis, oui, des livres, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres.
Bah oui, parce que tu es un gros lecteur.
Oui, c'est, je crois, mon loisir préféré.
Depuis toujours ?
Depuis...
Depuis tout petit ?
Tiens, je vais te raconter, je vais te faire une confidence depuis la cinquième, puisque j'avais un prof de français qui s'appelait Monsieur Vaucoulou. Il m'a marqué énormément et il nous lisait des histoires en classe. On avait une heure en cinquième où on avait droit à une histoire et je pense que quasiment tous les enfants se sont mis à lire des livres après ça. Et donc depuis la cinquième, ça fait longtemps maintenant, hein. Je lis.
Il y a un livre qui t'a marqué petit
Les dingos dossiers de Gottlieb.
Ah oui, donc déjà... déjà... Pas mal. Bah, bon choix en même temps. Hein.
Non, c'est vrai, les dingos dossiers, d'ailleurs, il y avait les dingos dossiers à la bibliothèque de mon collège, et comme personne ne l'empruntait jamais, et que moi je l'avais emprunté plusieurs fois, la bibliothécaire, le jour où ils font les tris de livres, elle me l'avait donné. Et donc j'ai toujours quelque part dans tout mon fatras le dingo dossier de ma cinquième.
Oui, c'était assez mythique à l'époque, et du coup c'était déjà finalement plus de la BD.
C'était pas forcément pour la BD que j'aimais ça, c'était pour le côté transgressif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui t'apprenait à réfléchir autrement que de façon académique. Ça, j'ai toujours trouvé ça merveilleux et très stimulant.
Donc ça t'a ouvert un peu l'esprit, quoi.
Absolument.
Alors justement, on parle de BD parce que Stéphane, donc sur Art District Radio, tu animes l'émission Bulle d'Histoire depuis janvier 2019. Maintenant, hein, je suis allée jeter un petit coup d'œil.
Oui, c'est vrai.
Pas me tromper sur la date. Donc c'est une émission diffusée tous les 15 jours et évidemment qu'on retrouve en podcast, et j'ai compté 46 bulles d'histoire déjà. Ce qui est quand même un beau chiffre.
Oui, j'ai compté aussi, j'ai été étonné parce que je pensais qu'on en avait fait une grosse vingtaine. Et non, il y en a 46.
Eh bien presque, même deux fois plus, un tout petit peu que deux fois plus. 46 bulles d'histoire tous les 15 jours, c'est un rythme que tu tiens très bien. Je rappelle que l'émission est diffusée le mardi à 10h30 et le samedi à 10h30. Et ensuite, donc, comme je le disais, évidemment, on la retrouve en podcast. Tous les épisodes sont en podcast disponibles. Alors, Bulle d'Histoire, c'est une émission axée sur la bande dessinée historique, puisque l'histoire, c'est vraiment aussi ta passion.
C'est ma passion, mais les bulles d'histoire, parce qu'on l'a fait ensemble, on l'a fait dériver quand même. Maintenant, on s'intéresse plus au monde de la bande dessinée en général qu'à la bande dessinée historique, même si ça reste le cœur. Des thèmes qu'on aborde, mais on a invité une coloriste, des éditeurs, des scénaristes, des dessinateurs évidemment, des libraires, des critiques. Voilà, on sort un peu du monde des auteurs pour aller vers tout ce qui fait la bande dessinée.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, donc c'est à peu près 30 minutes hein, d'interview avec à chaque fois un ou une invitée. Et évidemment, ça parle de BD, ça parle d'histoire, mais effectivement, comme tu le dis, ça parle aussi des métiers. Hein. Qu'est-ce qu'être éditeur de bande dessinée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être coloriste? Un métier qui est assez méconnu et dont tu nous as fait découvrir certaines caractéristiques. Donc, Bulle d'Histoire aussi, c'est un rapport assez direct avec un webzine, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Case d'Histoire, que tu animes aussi.
Oui, c'est un site, là, c'est vraiment consacré que à la BD historique. Il n'y a que de l'histoire. J'anime ça avec mon compère Thierry Lemaire. D'ailleurs, c'est surtout lui qui l'anime en ce moment, parce que quand un est trop surchargé, et là, c'est Thierry qui prend depuis quelques mois à sa charge l'animation de ce site. Donc là, c'est de la critique de bande dessinée, mais du point de vue de l'histoire. C'est-à-dire qu'on lit les bandes dessinées comme des historiens, et on essaye de faire partager ça à nos lecteurs en leur disant, voilà, pour comprendre une période, ou pour comprendre, mieux comprendre quelque chose, vous pouvez lire cette bande dessinée parce que l'auteur s'est documenté, il a réfléchi, il a rencontré tel historien, et puis en même temps, c'est aussi des bons moments de lecture, c'est aussi des aventures romanesques à lire.
Alors Stéphane, qu'est-ce qui t'a plu dans l'exercice de la radio? Parce que finalement, quand tu as commencé sur Art District Radio, tu n'étais pas familier du monde de la radio.
Ben, j'en avais jamais fait. J'étais déjà passé à la radio plusieurs fois, mais du côté de l'invité, mais jamais du côté de l'intervieweur. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'abord, ben, je suis un garçon curieux, j'aime bien tenter des nouvelles choses. Quand tu m'as parlé d'Art District, quand on s'est rencontrés, je crois que c'était une expo
Oui, c'était
Autodix.
Lors d'un voyage de presse,
voyage.
C'était...
Au Sable d'Olonne.
Exactement. Au bord de la mer.
Donc c'était une rencontre au Sable d'Olonne. Et quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, tiens, j'ai jamais fait de radio, je connais peu d'émissions de radio consacrées à la bande dessinée. D'après ce que tu m'avais dit, il y avait quand même de l'espace pour faire des choses, on avait un peu le temps de parler. Et donc c'est pour ça que je t'ai proposé ce format. Mais c'est vraiment beaucoup de curiosité, et puis j'aime bien apprendre des nouvelles choses.
Ouais.
Et je suis moi-même un écouteur de radio aussi, donc... Ça, c'est quelque chose qui m'était familier.
Donc une aventure qui continue, donc ça veut dire que tu as trouvé un peu ton rythme et puis la curiosité à chaque émission.
Hein. J'ai trouvé mon rythme et surtout je trouve que l'interview, moi c'est ce qui me plaît le plus dans le journalisme. Voilà.
Ça t'en fais déjà à côté.
J'en fais déjà et l'interview, parce que mon avis sur les bandes dessinées, à la limite, on s'en fiche un peu. Voilà, moi ce que j'ai moi à dire, quelquefois c'est intéressant, quelquefois ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce que les gens ont à dire de leur travail, c'est toujours intéressant. Il y a un grand historien qui disait que les bons historiens devaient toujours rechercher les endroits où il y a de la chair fraîche. Et c'est exactement ça, ce que je fais avec Bulle d'Histoire, c'est donner la parole aux gens et c'est toujours intéressant. C'est même toujours, je trouve, je suis toujours ému en fait, quand je fais une interview, je suis toujours content parce que je vais rencontrer quelqu'un que je connais pas, hein, ou quelqu'un que je connais sous un autre jour, voilà, c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup faire les bulles d'histoire sur Art District.
Alors l'histoire, évidemment, ça, c'est un peu le fil rouge hein, de ta carrière aussi de journaliste, t'as commencé par des études sur l'histoire de la photographie. Alors là, c'est deux univers qui se mélangent.
À l'époque, j'étais passionné par la photographie et il y a des champs historiques qui s'ouvraient, donc ça fait longtemps maintenant, les années...
Allez, on remonte un petit peu en arrière.
89, 90. Mm-hmm. Il y a beaucoup de champs historiques qui s'ouvraient, notamment sur les nouvelles sources, comment des nouvelles sources pour faire de l'histoire, et la photographie en est évidemment une.
Et à l'époque, c'était assez nouveau.
C'était totalement nouveau. Donc moi, j'ai travaillé sur Henri Cartier-Bresson à l'époque, et après, j'ai continué sur la photographie à l'école des ponts et chaussées. Donc qui a l'air d'être un sujet extrêmement aride.
Oui, alors ça, alors j'en parlerai à mon frère parce que lui a fait l'école des ponts et chaussées, donc peut-être qu'il aura un avis là-dessus.
Il y a une collection extraordinaire de photographies anciennes à l'école des ponts et chaussées.
Donc des photos d'architecture plutôt.
D'architecture, de travaux publics, ouais. De machines, de trains, d'expositions universelles, de phares, de choses comme ça.
D'accord.
Et Ça, c'est, j'ai fait ça pendant 2 ans, donc j'ai réfléchi, écrit un mémoire et ainsi de suite. Et après, j'ai commencé une thèse que j'ai pas finie pour plein de raisons.
Tu n'es pas le seul, je pense.
Voilà, je suis pas le seul, parce que je n'ai pas l'âme d'un enseignant, donc aucun intérêt d'aller enseigner, puisque je déteste ça. Donc je me suis arrêté pour travailler.
Et alors, là, tu as trouvé un travail dans quel domaine ?
J'ai fait des expertises de fond, d'archives pour la Bibliothèque nationale, dans le cadre des nouveaux projets qui se mettaient en place dans la très grande bibliothèque, la bibliothèque François Mitterrand, pour ce qu'on appelait à l'époque le niveau grand public. Et en fait, moi, j'allais partout et je commandais des plans de numérisation d'images qui étaient ensuite mis à disposition, non pas des chercheurs, puisque les chercheurs y avaient accès naturellement, mais pour le grand public. Donc il y avait des photos, des archives publiques, des archives privées, des archives politiques, des archives d'agences de presse et de choses comme ça.
Donc en fait, tu as contribué d'une certaine manière à enrichir certains fonds photos de l'ABN.
Probablement. C'était fonds numériques. C'était aussi le moment où on découvrait les photos numériques.
Ah oui.
Ça, c'est les années 1992-93. Ouais. Quasiment personne n'avait vu de photo numérique.
Et toi-même, tu pratiques la photo ?
Moi, j'ai arrêté depuis très longtemps.
Mais c'est quelque chose que tu as un petit peu approché ?
Bah oui, parce que j'avais le fantasme d'être photographe. Et comme je suis plutôt un intellectuel, j'en vois moins maintenant, beaucoup. Et je trouvais que ce que faisaient les autres était tellement mieux.
Ouais.
Que ça servait à rien de rajouter un mauvais sur le marché. Autant laisser les bons travailler tranquilles.
Alors, 5 ans à la BNF quand même, comme expert de fonds photo, et ensuite tu as fait autre chose. Pourquoi ça s'est arrêté, cette aventure ?
Ça s'est arrêté parce que moi, j'étais pas conservateur, j'ai pas le diplôme ni le tampon conservateur de bibliothèque. La carrière que je pouvais envisager était une carrière de grade papier, donc ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai arrêté et je suis parti à l'agence Vue, qui était une agence, qui existe toujours d'ailleurs, hein, mais qui à l'époque était une agence filiale du journal Libération, qui est une agence de presse photo qui a vraiment révolutionné le regard qu'on avait sur la photo de presse à l'époque.
Dans quel sens ?
Dans le sens plastique et esthétique. C'est-à-dire que des vrais artistes pouvaient devenir des photographes de presse. Et plus seulement des reporters pur jus. Voilà. On pouvait y avoir des plasticiens qui pouvaient devenir photographes de presse. Des gens qui ont travaillé pour Actuel, par exemple, se retrouvaient beaucoup dans cette agence.
Donc c'était d'ailleurs la grande époque de la photo de presse, on peut dire. Aujourd'hui, un journaliste, même qui ne connaît rien à la photo, fait les clichés parce que les revues ont plus d'argent pour payer des photographes.
Oui, ça c'est le grand débat.
Tu suis un peu cette actualité ?
Oui, je suis ça d'assez près. En fait, tout le monde peut faire des photos. C'est ça je pense qu'il faut se dire ça. Tout le monde peut faire des photos acceptables. Ensuite, il y a le cran au-dessus.
Quand même.
Les grands journalistes, les grands photographes, les gens qui savent cadrer, qui savent regarder, qui savent attraper une situation, qui savent faire tout ça.
Et on en a encore besoin.
Il y en a encore plein, oui,
bien
sûr.
Parce que la différence est quand même assez flagrante,
entre
un bon photographe, toujours.
C'est la même différence qu'entre un journaliste normal, je dirais, et un journaliste qui sait raconter.
Alors, cette expérience à l'agence Vue, c'est à partir de ce moment-là, finalement, que tu tombes un peu dans le monde de la presse.
Oui, tout à fait. Parce que ça va s'arrêter au bout de 4 ans, mais j'ai découvert la presse. Et je dois dire que c'est quelque chose, une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile d'en sortir.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a vraiment attaché à ce milieu
Là aussi, c'est plein de gens que j'ai pu rencontrer, plein de reporters, des gens qui écrivaient, des archivistes, des iconographes, tout ce monde qui fabrique des journaux. Je trouve que c'est un monde très riche, très très riche, avec plein de gens très attachants. Plein de gens pas attachants du tout, mais comme partout, quoi. Mais et en plus, ce que moi j'ai toujours aimé, c'est l'excitation de fabriquer un journal.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, tu étais près du côté fabrication et pas juste du côté reporter-journaliste. Là, tu étais vraiment rentré dans ce milieu par le biais de la recherche photo et la fabrication du magazine.
Exactement. Exactement. Et donc, il faut remplir les pages. Il ne faut pas les remplir, mais il faut quand même que le journal se fabrique pour les lecteurs, parce qu'il faut le terminer à un moment précis. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours plu, en fait. Quel que soit le journal où j'ai travaillé, c'est toujours la petite excitation qui fait que j'ai envie d'y retourner.
Alors justement, pour quel magazine tu as travaillé rapidement
Ah, pour plein de magazines.
Comme iconographe, alors, ouais, au début.
Là, comme iconographe. Mes grands souvenirs, on va faire ça comme ça, plutôt comme les vieux, comme les anciens combattants.
Allez.
J'ai travaillé pendant 2 ans à l'équipe.
Ah oui.
Ça, c'était génial.
Ah oui. Pourquoi?
Ben, j'avais été embauché pour travailler sur tous les projets photos autour de l'an 2000. Mm-hmm. Tout un travail sur les archives qui était vraiment chouette. Et puis, travailler à l'équipe, c'était drôle parce que c'est un monde à part, le journalisme sportif.
Mais j'imagine, oui.
Parce que moi, je m'intéresse au sport un peu, mais je ne suis pas un fan de sport, quoi. Et là, on rencontre des gens qui sont des espèces de malades mentaux du sport. C'est ça que je trouve... ça fait partie de tous les gens très attachants. Je me rappelle d'un type qui travaillait aux archives photos, qui pouvait réciter le palmarès de toutes les étapes de tous les Tours de France.
Ah oui, d'accord.
Les trois premiers.
Oui, quand même. Ouais.
Ça,
oui.
C'est génial. Ça ne sert absolument à rien. Mais d'accord. C'est absolument génial de savoir ça.
Ah oui, c'est des faux furieux, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y en a plein des comme ça. Non, après, où est-ce que j'ai travaillé? J'ai travaillé, tellement de choses.
En tout cas, après, tu t'es raccroché à l'histoire aussi, quand même.
Ouais, parce que j'ai travaillé à Science et Vie Junior hors série. Et j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jean Lopez, qui était le patron de Science et Vie Junior. Avec qui on a fait beaucoup de choses, qui est devenu un ami, à qui on a fait beaucoup de choses, qui a créé un journal qui m'emploie maintenant depuis 10 ans, c'est Science et Vie, Guerre et Histoire. Mmh. Donc un journal d'histoire militaire. Donc c'est un peu spécial, l'histoire militaire. Donc c'est un journal d'histoire militaire, qui est fait par des spécialistes et des historiens. Mmh. Et moi je m'occupe de toute l'iconographie du journal.
Donc depuis 10 ans,
je vis dans l'iconographie militaire.
Alors c'est quoi l'iconographie militaire? Il faut chercher des photos de chars, de...
Ben, il faut chercher des photos de chars, et un char ressemble à un char, mais c'est pas le même. Non, c'est après, si on entre un Panzer III, un Panzer IV.
Ouais. C'est aussi de l'imagerie, parce que bon, il y a les guerres avant la photo quand même.
Il y a aussi beaucoup d'imagerie. Il y a beaucoup de photos, et là, ce que je trouve génial dans ce travail, c'est qu'on travaille avec des archives du monde entier. Par essence, la guerre est un phénomène universel, mondial. Donc je peux être amené à travailler avec des Israéliens, des Mexicains, des Cambodgiens, enfin des gens du monde entier. Et donc là encore, on retrouve le plaisir de rencontrer des gens improbable, voilà. Un archiviste mexicain, il y a très peu de chances d'en rencontrer dans sa vie, même au téléphone ou par internet, ça c'est assez génial.
Et alors quel a été, est-ce que tu as eu vraiment un plaisir particulier à réaliser un reportage spécifique? Est-ce que tu as des souvenirs ou d'avoir trouvé par exemple une photo incroyable?
J'ai trouvé la première photo... la seule photo de la première guerre américaine, la guerre américano-mexicaine, dans les années 1850. Il y a un daguerréotype conservé dans une université américaine qui montre l'entrée des troupes américaines, je ne sais plus dans quelle ville du nord du Mexique.
D'accord.
Ça, c'était un truc un peu insensé. Puis non, après, toutes les photos sont... J'ai toujours plaisir à regarder des photos et je suis toujours émerveillé de voir que presque tout a été photographié, que partout il y a des gens qui font des photos.
Alors si je reviens au métier, donc là c'est le métier d'iconographe, mais tu es aussi journaliste, puisque tu écris, tu rédiges, tu fais sûrement des commentaires et des descriptions de photos d'ailleurs, et tu fais aussi des interviews. Alors comme pour Bulle d'Histoire, tu interviewes le monde de la BD, mais tu interviewes aussi des anciens combattants pour ces magazines d'histoire.
Alors, Oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil, c'est un plaisir, c'est une bénédiction, ouais, de faire ce travail.
Ça, humainement, ça doit être absolument dingue.
Oui, parce que moi, je suis plutôt sur des gens qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, plutôt des Français, et je rencontre donc des très vieux messieurs qui ont eu des vies que personne ne peut imaginer, ou qu'on a dans les livres, justement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils me racontent leur vie, et moi, je suis juste là pour leur tendre le micro. Mais on rencontre des personnages fabuleux. Là, j'ai interviewé, je pense, le dernier survivant de la chasse française de 1940. Donc la chasse, c'est les avions de chasse. Donc c'est un monsieur qui est né en 1918.
Ah oui, oula, il a plus de 100 ans.
Donc la première guerre n'était pas encore tout à fait terminée quand il est né.
Oui.
Et ce monsieur m'a donc raconté sa jeunesse quand il a appris à piloter, quand il est devenu pilote. Donc ça, c'est dans les années 1932, 33, 34. Il était très jeune. Et ensuite, il me raconte sa guerre.
T'en as interviewé combien ?
Moi, je dois en être à une dizaine. Les deux qui m'ont marqué le plus, c'est un survivant du camp du Struthof. Le Struthof, c'est le seul camp de concentration qui était en France, qui était en l'est de la France, en Alsace. Et ce monsieur, qui est un monsieur délicieux, vraiment d'une gentillesse infinie, donc alsacien, pendant la guerre il est considéré comme allemand, mais il ne veut pas être incorporé dans la SS, donc il va essayer de s'échapper. Il suit tout un truc en train et il se fait capturer par des gendarmes suisses qui le remettent à la Gestapo. Mmh. Pas de chance. Mmh. Et donc il finit en camp de concentration. Et donc il m'a raconté tout ça, comment il s'échappe à la fin de la guerre. Et, donc c'est des choses très très fortes. Et à la fin, je lui dis, après la guerre, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, je suis devenu prof d'allemand.
Le comble de l'histoire.
Et il est devenu prof d'allemand parce que pendant qu'il était en camp de concentration, il avait tout oublié, les maths. Il m'a dit, j'ai tout oublié, sauf l'allemand, parce qu'il fallait que je parle allemand avec... mes geôliers. Et donc, c'est aussi en cours d'allemand qu'il a rencontré sa femme. Enfin voilà. Il y a toute une très très belle histoire.
Et le deuxième alors ?
Le deuxième, c'est le plus dément des plus déments. C'est un monsieur qui vit à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Guy-Pierre Gauthier, que j'ai rencontré parce que son petit-fils a fait une bande dessinée sur sa vie. Sa vie est totalement démente. Quand il était petit, il a sauté sur les genoux de Trotsky, par exemple.
Voilà, par exemple.
Parce que sa famille était communiste, et donc Trotsky venant en France, il est allé chez les beaux-frères de ce monsieur. Et quand la guerre éclate, il fait partie de mouvements de jeunesse communiste, il est très jeune, il ne sait pas trop ce qui se passe, jusqu'au moment où il voit son entraîneur se faire arrêter par les Allemands, et là il comprend qu'il se passe des choses pas jolies, et il va commencer à résister en collant des petits papiers un peu partout dans la ville. Il se fait arrêter par le commissaire de police, et le commissaire de police les engueule avec son copain. Il leur dit, faut pas recommencer, hein, et il les laisse partir.
D'accord.
Sauf que quand ils reviennent, évidemment, ils vont recommencer. Et là, ils vont devenir des vrais résistants, mener des actions, des sabotages, tout un tas de tout ce que peuvent faire les résistants. Il va se faire arrêter, là, par des méchants de la Gestapo allemande. Il est emprisonné dans une prison française, et il participe à la seule révolte de résistants dans une prison française. Là aussi, quand il raconte ça, c'est les larmes aux yeux, parce qu'il raconte qu'il a encore les odeurs de cigarettes, il a encore l'odeur de son copain qui va se faire fusiller. Enfin, c'est... Et il est ensuite embarqué par des gens très 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 méchants, la division Das Reich, qui sont des SS qui vont faire oradour sur glane, qui vont faire des choses moches, et ils vont l'envoyer à Dachau. Et il va passer 9 ou 10 mois à Dachau, ce qui n'est pas forcément un camp de vacances. Et quand il revient, il me raconte une histoire. Quand il est parti en déportation, il était amoureux d'une femme. Et dans le train, quand il part, il réussit à jeter un petit papier à travers les interstices du wagon, en lui disant « Attends-moi, mon amour », enfin, des mots d'amour, quoi. Et quand il revient de déportation, il retrouve cette jeune femme, et elle avait le petit papier qu'elle lui a rendu, parce qu'en fait, elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Et elle s'est mariée avec un autre homme.
Oui, alors des histoires pleines d'émotions.
Oui, pleines d'émotions et chaque fois des expériences humaines hors du commun. C'est ça qui est incroyable.
Voilà, donc l'histoire, les archives, la bande dessinée, la guerre aussi, l'histoire de la guerre plus spécifiquement. Et puis, de manière beaucoup plus légère, la cuisine. Alors ça, mais l'histoire de la cuisine, hein, quand même, on reste dans l'histoire encore.
Oui, mais là aussi, pas que, parce que
parce que aussi, t'es gourmand.
Ouais, et surtout, j'ai une grande passion pour le faire, la cuisine.
Voilà, donc
les
recettes, tu fais des bons
les choses
petits plats.
Comme ça, voilà. J'avais une collection de livres de cuisine que j'ai vendus l'an dernier, parce que ça me prenait trop de place, j'en avais 350, un truc comme
ça. Ah oui, quand même, c'est
donc,
dingue.
Donc tu vois, on peut pas les mettre tout le temps. Et j'ai toujours eu une passion pour fabriquer de la cuisine.
D'accord.
C'est pour moi quasiment un acte métaphysique, quoi.
Et depuis quand ça, je veux dire, t'avais des cuisiniers dans ta famille?
Ouais, ma grand-mère était cuisinière. Je ne l'ai pas connue longtemps. Hein, donc... C'est plus de la mythologie qu'autre chose, ça vient peut-être de là d'ailleurs. Mais sinon, ma mère cuisinait super mal, enfin voilà, c'était, non, c'était catastrophique.
C'est peut-être pour rattraper ça.
peut-être. Et donc j'ai beaucoup cuisiné, j'ai été même cuisinier à domicile pendant quelques années.
Qu'est-ce que t'aimes cuisiner ?
Tout en fait. Moi ce que j'aime c'est manipuler, couper, faire cuire.
Mais ton plat, je sais pas, fétiche ?
Mon plat fétiche.
Ou ton dessert fétiche ou ton...
Je sais pas en fait, aucune idée.
Aucune idée, d'accord. Bon, tout. Alors même
ouais, j'en ai plein. J'en ai
plein. Je pourrais te citer le vieux, du monde entier.
La vieille recette de pâté de campagne de ma grand-mère, voilà, que je refais, paraît-il, à la perfection. Mais à part ça, non, je fais plein de trucs, tout... Je te dis, c'est une sorte de geste vraiment métaphysique. J'ai l'impression d'être en relation avec Dieu quand je fais cuire un steak, moi. Donc, n'étant pas croyant, je me dis que si ce truc est là pour nous nourrir, c'est qu'il y a forcément une bonne raison.
Donc, ta femme et tes enfants sont super contents.
Ouais, je pense.
Ouais.
Surtout ma femme. Parce que ma fille qui a 12 ans... C'est pas... Avant, oui, maintenant, non. Après, ça reviendra, mais...
Alors là, évidemment, t'as pas pu t'empêcher d'écrire un livre d'histoire de la cuisine.
Ouais, absolument.
Voilà, hein, quand même.
Mais ça, c'était pour les éditions... 2003, je crois.
Ouais.
2003, ouais. C'était pour les éditions du patrimoine qui fêtaient leur Xème anniversaire. Mmh. Et les éditions du patrimoine, c'était, ou c'est toujours, je sais pas, une émanation du Centre des monuments historiques. Et comme ils ont des monuments dans toute la France... Souvent, il y a des cuisines anciennes dans tous ces monuments, des châteaux, des abbayes. Et là aussi, par les hasards complets de la vie, hein, je me suis retrouvé avec des gens, et à force de parler cuisine et d'histoire, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne nous ferais pas un livre de cuisine qui serait vendu ensuite dans tous les monuments ?» Donc j'ai choisi une cinquantaine de recettes, des Romains jusqu'à nos jours.
Et donc ça, c'est des recettes qu'on peut, nous, grand public, si on achète le livre, les refaire facilement.
Totalement.
D'accord.
Il y a les ingrédients de substitution, parce qu'il y a des trucs qu'on ne trouve plus. Hein.
Mais ils mangeaient quoi, les Romains ?
Du loir, par exemple.
Ah oui.
Ouais.
C'était leur plat, comme on mange, nous
Comme du lapin. Nous, on mangerait du lapin, ceux qui aiment le lapin. Eux, ils mangeaient du loir.
D'accord.
Et ils avaient même inventé un système de jarre, qui était une sorte de labyrinthe à l'intérieur, dans lequel ils faisaient tomber des graines. Donc les graines descendaient dans le labyrinthe, les loirs n'avaient que ça à faire de manger, et donc ils s'engraissaient.
Oui.
Ensuite ils cassaient la grosse bonbonne et ils faisaient griller les loirs.
Et c'était bon alors apparemment.
Ben, j'imagine, sauf que les loirs on n'a pas le droit de les chasser parce que je crois que c'est un animal protégé.
Oui.
Donc nous on avait proposé du lapin.
Voilà. D'accord.
On avait bien dit que le loir n'était pas trouvable sur les marchés. Et donc là aussi c'est un livre introuvable.
Ah, c'est dommage, ça me donnait envie, là, de...
Ouais, bah, j'en ai peut-être un que je pourrais t'offrir à la fin. Non, il est introuvable, totalement introuvable. Épuisé, j'ai épuisé... Ouais.
Et est-ce qu'il y a des recettes que tu as vraiment découvertes ? Une, par exemple, qui serait un petit peu originale
Les crêpes à la confiture d'aubergine.
Ah oui.
Ça, c'est une recette d'un cuisinier contemporain, dont j'ai oublié le nom, et qui est une merveille.
Donc ça, c'est notre époque.
Oui, notre époque. Mmh. Et sinon, dans les époques plus anciennes, une recette de gigot de mouton du XVIIIe siècle, bouillie, donc exactement comme font les Anglais, et donc on l'a refaite avec la styliste culinaire qui préparait les photos, et c'est absolument délicieux.
Donc ça, j'attends que tu me fasses ça la prochaine fois.
Bah, la prochaine fois, je te ferai ça, le fameux gigot du XVIIIe siècle. Oui, sans problème. C'est divin.
Et c'est pas trop dur à faire, alors,
non,
j'espère.
Non. Tout le monde peut le faire. Mais la cuisine, tout le monde peut la faire. Il n'y a rien de...
Ouais.
Il n'y a rien de sorcier.
Alors, les restaurants, là, ça doit te manquer. Tu vas souvent au restaurant ou tu préfères finalement...
Non, j'aime bien aller au restaurant. J'aime souvent au restaurant. Enfin,
oui.
Souvent, régulièrement plutôt.
Voilà.
Mais je vais toujours au même, alors c'est un peu...
Ah, il est où ? On va faire un peu de pub.
Non, mais ils sont un peu partout. Et puis je vais souvent avec mon... Bah, je cite mon ami Laurent Lerner, qui est un habitué des bulles d'histoire, où là, on a nos restaurants asiatiques fétiches préférés, tous les deux.
Ah, c'est où ? Ça se passe dans quelle ville ?
Rue Sainte-Anne.
Ah, Rue Sainte-Anne. Ah oui, où il y a beaucoup là, de restaurants asiatiques, justement. Oui, de japonais, en fait. Il y a une cuisine que tu n'aimes pas du tout ?
Non. Je suis totalement omnivore. Je ne pense pas qu'il y ait une chose que je ne puisse pas manger.
D'accord.
Non, je crois pas. Je pense que je peux tout manger.
Manger, et puis alors quand tu as bien mangé, tu peux nous chanter aussi un petit air d'opéra. Il paraît.
Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas chanté d'opéra. Mais effectivement, dans tout ce que j'ai pu faire, j'ai fait beaucoup de chants lyriques. Je chante plus du jazz.
Alors, c'est vrai que t'as une voix, là on l'entend, très grave, qui peut-être se prête à un certain type de chant.
Bah, des rôles, par exemple, moi j'ai chanté le rôle de Sarastro dans La Flûte Enchantée, plus grave, des plus graves voix.
Donc t'es carrément le plus bas.
Je pense qu'il y a des plus bas quand même, mais je suis bas, ouais.
Non,
l'opéra, c'était un fantasme. Ouais. Et puis un jour, je vais inscrire mon fils au conservatoire, il voulait faire de la batterie. Ouais. Et puis la secrétaire me dit, et pour vous, qu'est-ce que je mets? Et là, je lui ai dit, chant lyrique. Et c'est comme ça que j'ai commencé, ça devait être vers 2000 ou dans ces années-là. Et c'est.
Mais ça t'a plu
énormément, au-delà de tout, quoi. Au-delà de tout.
Ah oui,
ouais.
Vraiment.
Franchement, dans tout ce que j'ai pu faire, je pense que si j'avais pu faire une carrière à choisir, ça aurait été chanteur lyrique.
Et tu continues à prendre des cours de chant
Ouais.
D'accord.
Oui, oui.
Donc on peut t'entendre peut-être
Quand
dans
c'est déconfiné,
spectacles.
Maintenant c'est plus du jazz que je chante, mm-hmm. Donc il y a des concerts de jazz au conservatoire où je chante.
Bah on ira voir ça.
Bah ouais.
Faut que tu nous invites, Stéphane.
Bah ouais.
Moi je
ouais.
veux voir ça. Alors surtout que sur un district où on diffuse beaucoup de jazz.
Bah ouais.
Ce qui te plaît d'ailleurs, j'imagine. Donc effectivement, chanteur de jazz.
J'aime les chanteurs, moi, les chanteuses aussi.
Alors, si on peut passer une petite chanson à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on diffuserait pour toi, alors Quelle chanteuse ou quel chanteur?
Ça peut être Frank Sinatra,
mm-hmm.
et évidemment Ella Fitzgerald.
D'accord.
Mel Tormé. Mel Tormé, c'est un roi de l'improvisation. Ella Fitzgerald, c'est la déesse totale et absolue du chant. Et Frank Sinatra, c'est un diseur de chansons hors pair. Quand tu écoutes Frank Sinatra, tu entends toutes les lettres. Il n'y a rien de mangé, tout est à sa place. C'est la perfection totale.
Bon, alors on choisit lequel des trois là pour faire
Sinatra, parce que je pense que vous le passez jamais.
C'est vrai. Allez, un petit Sinatra.
Ah, Mel Tormé, je pense que vous le passez jamais aussi.
C'est vrai qu'on est plus sur du jazz un peu contemporain en ce moment là, mais.
Il faudrait que je vous fasse des playlists.
Oui, bien sûr.
De chants.
Allez, c'est parti, on va dire ça. Alors, on va rappeler en tout cas Bulle d'Histoire. Donc, c'est tous les 15 jours. C'est à 10h30 le mardi et le samedi sur Art District Radio et évidemment en podcast. Alors, on rappelle aussi que tu avais fait pendant le confinement, donc l'année dernière, pour un petit peu nous dérider et nous sortir du confinement, des apéros BD, donc qu'on pouvait entendre tous les jours sur la radio. C'était 3-4 minutes avec, par Skype, puisque c'était à distance évidemment, avec un auteur ou un dessinateur de BD, homme ou femme, qui nous disait un petit peu ce qu'il lisait.
C'était un conseil de lecture, oui,
pendant le confinement. Donc, ça, c'est aussi des mini-bulles, on va dire, à retrouver en podcast également sur la radio. Et je précise aussi que tu avais fait une émission qui s'appelait La mécanique de l'histoire, un numéro, mais qu'on peut aussi retrouver en podcast avec... alors là, c'était vraiment une émission d'historien et d'historienne.
Oui, d'historienne. Mais on va la reprendre sous une autre forme dans les semaines qui viennent, à la rentrée probablement, quand on aura bien calé le concept.
Merci beaucoup, Stéphane.
Bah, c'était un plaisir. Julie, on pourrait parler des heures de moi, en fait.
Bah oui, voilà, tu vois, cette belle carrière, toutes ces passions. Donc maintenant, c'est l'heure de l'apéro, je crois.
Ouais, je crois, oui.
Bon, alors on va s'arrêter là, Stéphane, avec grand plaisir de t'avoir écouté, d'en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin?
Non, je ne pas spécialement. C'est juste dire le plaisir que j'ai à faire des émissions sur Art District. C'est très corporate, mais c'est vrai. Et je suis pas le seul. Visiblement, tous les autres chroniqueurs aussi.
Écoute, j'espère.
Prennent beaucoup de plaisir. Et à chaque fois que j'écoute, je suis toujours étonné de leur curiosité.
En tout cas, aucun ne m'a dit non à cette interview pour le moment. Donc, on va rester comme ça. Allez, salut Stéphane, à très vite.
Salut Julie, à bientôt. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought of it, about the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot. Not
not to cool down. So goodbye, dear darling. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flights. A trip to the moon on gossamer wings. Just one of those things. If we thought of it, about the end of it, when we started painting that town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, goodbye, bye bye, goodbye, baby and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those.